Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, déficit inédit et dépenses de santé exponentielles. Nous détaillerons dès le début de ce journal le projet de budget de la Sécu 2021 dévoilé depuis ce matin par le gouvernement.
Quand Engie vante le projet de Veolia de racheter ses parts dans Suez.
Oui, le président du géant de l'énergie a salué aujourd'hui un projet industriel solide, désavouant ainsi la direction du numéro 2 mondial de l'eau et des déchets.
Dans votre journal également, la France qui entame à partir d'aujourd'hui son marathon pour se connecter à la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G.
Les autorités ont lancé l'attribution des premières fréquences sur fond de controverse. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bourgogne. C'est un événement incontournable de toute campagne présidentielle américaine, le premier débat télévisuel entre les deux candidats, et il aura lieu ce soir entre Donald Trump et Joe Biden. Enfin, toujours à l'étranger, nous irons en Inde où Amnesty International a annoncé ce matin suspendre ses activités après le gel de ses comptes bancaires, l'ONG qui dénonce une chasse aux sorcières. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Pourquoi a-t-on inventé les musées et pourquoi nous semble-t-il aussi indispensable aujourd'hui à partir de 12h55 ? Donc, l'historien et philosophe Christophe Pomiane, il vit en France depuis une cinquantaine d'années, il est d'origine polonaise et il est surtout l'auteur aujourd'hui de Le Musée, une histoire mondiale avec un volume 1 qui paraît. On aura plaisir à le recevoir dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Plongée dans des abysses en raison du confinement et de la récession, la sécurité sociale s'apprête à passer encore une année en apnée ou quand l'épidémie de Covid-19 n'en a pas fini de peser sur le budget de la Sécu. Après un déficit record de 44,7 milliards d'euros en 2020, une perte de plus de 27 milliards est encore attendue l'an prochain. Alors rien de très étonnant à cela. En toute logique, non seulement les dépenses de santé ont explosé, mais les ressources composées pour une large part des cotisations sociales ont été par ailleurs largement impacté à la fois par la forte hausse du chômage et le recours massif à l'activité partielle. En clair, on savait que le déficit serait abyssal, restait donc à savoir jusqu'à quel point. Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Bercy, le gouvernement a donc mis fin au suspense ce matin. Vous venez d'assister à la présentation de ce budget, alors notons tout de suite qu'il y a bien une maigre consolation. Le déficit cette année devrait être moins lourd que prévu, 44,7 milliards au lieu des 52 prédits avant l'été. Toujours est-il, Anne-Laure, que les quatre branches historiques, santé, retraite, famille et accident du travail, se retrouvent donc désormais dans le rouge.
Et oui, sans compter que ce budget 2021 acte également la création d'une cinquième branche au sein du régime général, celle dite du soutien à l'autonomie, la branche dépendance promise par Olivier Véran, qui sera notamment financée par une partie de la CSG. Alors, vous l'avez dit, toutes les branches sont dans le rouge principalement par manque de recettes, moins de cotisations, moins de taxes affectées à cause de la crise et plus de dépenses, évidemment. Comment donc sera financé ce budget inédit de la Sécu en 2021 ? Par le déficit, 27 milliards d'euros prévus fin 2021, peut-être plus, car on ne sait pas combien de temps va durer la crise. Les complémentaires santé sont priés également de contribuer à ce budget à hauteur d'un milliard d'euros. Les fabricants de médicaments, en revanche, voient leur contribution baisser de 1 milliard d'euros. Elle passe à 640 millions. Les économies, elles, continueront de se faire sur la gestion de l'accès aux soins, notamment quant aux dépenses. Elles concerneront la cinquième branche, on l'a dit, les revalorisations et les investissements prévus par le Ségur de la Santé à hauteur de 8,2 milliards d'euros. Les dépenses, évidemment, d'assurance maladie estimées à 224,6 milliards d'euros. Et puis, un dernier point que le ministre du budget a tenu à souligner, toutes les exonérations de cotisations mises en place pendant la crise seront intégralement compensées par l'État. Une brèche avait en effet été ouverte les années précédentes. Pour Olivier Véran, il s'agit donc d'un budget de réponse à la crise et tourné vers l'avenir. Je reste, a-t-il affirmé, le ministre de l'équilibre des comptes sociaux. Un équilibre futur qui se joue pourtant dès maintenant, mais les mesures difficiles sur la future réforme des retraites, par exemple, seront annoncées plus tard.
Merci Anne-Laure Chouin en direct de Bercy ainsi qu'à Georges Thau pour les moyens techniques. Si le nombre quotidien de nouvelles infections par le coronavirus en France a fortement baissé hier, en particulier en raison du nombre de tests toujours moins nombreux le dimanche, pas moins de 82 décès ont été enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis le 3 juin dernier. Quant aux hospitalisations, elles continuent d'augmenter à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la mi-juillet. C'est donc dans ce contexte que l'on a appris ce matin via le ministère de la Santé qu'un peu plus de 3400 lits d'hospitalisation complète avaient été fermés l'an dernier dans les établissements, lesquels ont créé dans le même temps 1500 places d'hospitalisation partielle cette fois-ci, ou dit autrement, t'arraches les gueules, les grèves, comme les manifestations qui, on s'en souvient, ont agité l'hôpital l'an dernier, n'auront pas réussi à inverser la tendance générale.
L'adresse, la direction statistique du ministère, publie chaque année cette synthèse sur le nombre d'établissements et le nombre de lits. Invariablement, ces derniers sont en baisse. Entre 2018 et 2019, puisque ce sont les derniers chiffres disponibles, les lits d'hospitalisation complète ont diminué de 0,9%. Parallèlement, les places d'hospitalisation partielle, qu'on appelle souvent ambulatoires, ont progressé de 1,9%. Il faut également noter que l'hospitalisation à domicile est en augmentation d'un peu plus de 5%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire en France, on peut soigner 19 100 patients chez eux. L'important est de voir qu'il s'agit d'une tendance de fond. En un peu plus de 25 ans, les hôpitaux ont perdu presque 100 000 lits de chirurgie, médecine, obstétrique, selon les calculs d'Emmanuel Vigneron, un géographe de la santé repris dans un article du Monde. Parallèlement, les lits de soins de suite et de réadaptation ont augmenté de 11 000 unités et surtout l'ambulatoire progresse. D'ailleurs, le gouvernement ne s'en cache pas. Agnès Buzyn, dans Ma Santé 2022, voyait déjà la chirurgie ambulatoire, par exemple, grimper de 53 à 70%. À noter que les lits de réanimation, qui sont 5400 en France, ont augmenté de 1,2% depuis 2013, ce qui n'est pas négligeable en ces temps de pandémie. Quant aux lits de soins intensifs, qui sont utilisés quand la défaillance du malade concerne un seul organe, ils ont progressé de 10%.
Un nouvel épisode dans la bataille de plus en plus âpre, Thomas Cluzel, que se livrent depuis 2 mois Veolia et Suez, et ce, alors qu'approche la date butoir du 30 septembre.
Oui, ce matin avait lieu l'audition devant la commission des finances de l'Assemblée du président d'Engie. Engie qui, en l'occurrence, a les cartes en main, puisque je vous le rappelle, c'est sa propre participation dans Suez qu'entend racheter Veolia. En préalable au lancement ensuite d'une OPA sur l'ensemble, cette fois-ci, du capital de Suez. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a été très clair. Anne-Laure, pas question de tergiverser.
Oui, car le calendrier est serré. L'offre de Veolia expire demain à minuit. Le conseil d'administration d'Engie se réunit également demain. Et si Engie attend toujours la nouvelle offre promise par Veolia avec une amélioration du prix, il considère que cette proposition est solide. Tandis que Suez n'a toujours pas déposé d'offre alternative. Je n'ai aucune volonté de conclure dans la précipitation, assure son président Jean-Pierre Clamadieu, mais attendre Suez, c'est prendre, dit-il, un trop grand risque.
Nous avons une offre qui expire demain. Si cette offre expire, nous n'en avons plus. Alors, me suggérez-vous, mesdames et messieurs, de faire le pari qu'il y en aura peut-être une demain? La dernière information qu'a partagée Philippe Barin avec moi, c'est qu'il souhaitait 3 mois pour préparer une nouvelle offre, sans qu'il soit capable de nous dire à quel niveau elle se fixerait. C'est vraiment lâcher la proie pour l'ombre.
Jean-Pierre Clamadieu, pas tout à fait donc sur la même ligne que le principal actionnaire de son groupe, qui n'est autre que l'État. On n'est pas à 15 jours, 3 semaines près, assurait ce matin le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, chez nos confrères de France Inter.
L'État fera respecter les conditions qu'il a mises, pas de précipitation, la protection de l'emploi, la protection de l'empreinte industrielle, une offre qui soit à majorité française et enfin pas de guerre entre deux grands industriels français. Donc j'appelle les deux parties au sens des responsabilités et je leur dis avec beaucoup de fermeté, l'État ne cédera à aucune pression, ni d'une partie, ni de l'autre.
Mais le dialogue entre ces deux parties semble aujourd'hui impossible. Dans les colonnes du Figaro ce matin, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, parle à propos de Veolia de démarches agressives et d'offres inacceptables.
Merci Anne-Laure Jumet. Après un premier faux départ, c'est aujourd'hui que débute en France une véritable course de fond. L'attribution des premières fréquences 5G qui devrait rapporter plusieurs milliards d'euros à l'État. Initialement prévu en avril dernier, mais repoussé en raison de la pandémie, ces enchères lancées ce matin doivent ouvrir la voie au première commercialisation de services de cette nouvelle technologie dans certaines villes à la fin de l'année. Un déploiement mené en dépit toutefois de la défiance d'une partie de l'opinion, mais aussi des multiples demandes de moratoire de plusieurs élus, sans oublier les nombreux avertissements lancés par les ONG sur les risques potentiels pour la santé et l'environnement. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs prévu, dès l'attribution de ces fréquences, de déposer un recours devant le Conseil d'État pour demander donc la suspension du développement de cette 5G. Je vous propose d'écouter maître François Laforgue. Pour lui, vous allez l'entendre, ce déploiement à marche forcée, mené en dépit du bon sens, il le dit à Véronique Roberotte.
On prend le dossier à l'envers dans la mesure où il s'agit d'un projet très important pour le gouvernement, manifestement, qui en fait une priorité, le déploiement de la 5G. Donc c'est ce qu'on appelle un plan, projet ou programme qui est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en termes de consommation énergétique qui va tripler ou quadrupler certainement, également en termes d'empreinte carbone, avec le renouvellement du parc des smartphones, d'atteinte aux ressources naturelles, sans parler de l'atteinte sanitaire possible. Les problèmes sanitaires, aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui démontrent qu'il y a des impacts sur les enfants notamment, et également des effets cancérogènes possibles. Il y a des interrogations majeures quant à cette nouvelle technologie de la 5G, qui est une technologie différente de précédente, avec un ciblage sur l'utilisateur, et sans qu'on sache quels sont aujourd'hui les impacts sanitaires de cette nouvelle technologie. Et dans ces cas-là, eh bien, on doit faire une évaluation environnementale préalable au déploiement de la 5G, à la mise en œuvre du projet. Or, en l'espèce, eh bien, le gouvernement prend les choses à l'envers, déploie la 5G, et ensuite, on verra. Avec une évaluation sanitaire qui est envisagée pour 2021, donc après le déploiement de la 5G, et une évaluation environnementale qui n'est même pas du tout envisagée. Donc en fait, le gouvernement a agi en dépit du bon sens. Il aurait dû commencer par une évaluation environnementale, puis, sur la base des résultats de cette évaluation, prendre les décisions qui s'imposaient.
Voilà, et pour continuer d'évoquer ce dossier controversé donc de la 5G, invité de la rédaction aujourd'hui, François Jarige, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Catherine Pétillon. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Première question, monsieur Jarige, diriez-vous, comme on vient de l'entendre dans la voix de cet avocat, que le gouvernement a mis en quelque sorte la charrue avant les bœufs?
Ça me paraît assez évident. Il y a beaucoup d'observateurs qui sont quand même étonnés de la rapidité et de la brutalité avec laquelle le gouvernement décide d'imposer cette technique qui suscite beaucoup de débats. Et ça interroge sur les raisons de cette urgence en réalité.
Est-ce que, François Jarige, cette controverse vous semble propre à la 5G ou elle a finalement des points communs avec d'autres épisodes, d'autres introductions de nouvelles techniques?
Oui, si vous avez la gentillesse de m'accueillir, c'est parce que je suis historien et je me suis intéressé à l'histoire des controverses sur de grands projets techniques de ce type-là. Et ce à quoi on assiste, c'est vraiment quelque chose de très classique en fait dans le déploiement plus ou moins autoritaire de grands projets technologiques depuis 150 ans. Et on voit bien que le gouvernement répond d'abord à des objectifs industriels et à des objectifs de profit à court terme pour certains acteurs économiques, aux dépens d'enjeux qui sont quand même beaucoup plus importants et massifs, comme l'écologie, l'environnement, les enjeux sanitaires et le monde qu'on veut construire. Donc oui, il y a énormément d'exemples historiques qui sont assez proches. Enfin, si vous en voulez un concret, j'évoquerai juste peut-être l'un des plus anciens et l'un des plus intéressants à cet égard, c'est la façon dont s'est installée la société de la vapeur, des énergies fossiles au milieu du 19e siècle, c'est qui a donné naissance d'ailleurs à ce qu'on appelle l'effet rebond, dont on parle beaucoup autour de la 5G. Et je rappelle juste que dans les années 1860, beaucoup d'acteurs s'interrogeaient sur la pertinence de développer les machines à vapeur, l'industrie fondée sur la vapeur en raison des pollutions, en raison des pénuries de ressources qui étaient annoncées. Et c'est dans ce contexte-là que des ingénieurs annonçaient que des progrès techniques dans le domaine des machines à vapeur permettraient de résoudre les problèmes et qu'on aurait un système énergétique sans pollution. Et c'est dans ce contexte qu'un autre économiste a forgé le concept d'effet rebond. C'est-à-dire l'idée que, certes, il y aurait une amélioration par unité de machine des rendements énergétiques, mais globalement, la consommation ne va pas cesser d'augmenter. Et c'est exactement ce à quoi on a assisté. Et ça, toute l'histoire des 150 dernières années de la société industrielle, c'est ça. C'est des promesses hors sol d'amélioration, d'accroissement, d'amélioration des rendements qui se payent d'un accroissement global de l'extraction, des pollutions, des contaminations. Il y a la même chose avec l'automobile dans les années 70, lorsque beaucoup s'interrogeaient sur les pollutions automobiles, sur la dépendance croissante à l'automobile. Les constructeurs expliquaient dans les années 60 que dans les années 70, quand, au début du 21e siècle, les voitures ne pollueraient plus grâce au progrès de les motorisations, grâce au progrès des technologies.
Amélioration dont on voit, François Jarige, qu'elles n'ont pas eu lieu. Je vous interromps, mais Emmanuel Macron, on s'en souvient, a opposé justement, à l'issue de cette histoire-là, a opposé récemment, c'était il y a quelques jours, les adeptes de la lampe à huile aux partisans du progrès, en l'occurrence de la 5G, c'était il y a quelques jours devant les représentants de la French Tech. Cette manière de poser le débat ou de l'éteindre, disent certains, est-ce que c'est juste une petite phrase ou est-ce que ça vous dit, ça vous semble dire autre chose de la conception du progrès, de l'innovation que défend ici le président de la République?
Ça me semble surtout montrer que le président Emmanuel Macron est le principal représentant de l'ancien monde. Et quand je dis l'ancien monde, c'est l'ancien monde des sociétés industrielles les plus polluantes, les plus destructrices pour l'environnement. Donc moi, je reprendrais bien le mot de Bruno Latour dans une tribune il y a quelques jours au Monde, où il disait que cette déclaration du président était désespérante. Désespérante parce que ça fait des années qu'on a complexifié notre compréhension de ce qu'on appelle le progrès technique, le changement technique, qu'on a complexifié et affiné notre compréhension de l'idée même de progrès qui n'est pas quelque chose de linéaire, qui n'est pas quelque chose sans alternative, qui n'est pas quelque chose d'inéluctable. Et le président Macron, en fait, réaffirme là vraiment une sorte une multitude de promesses technologiques, une confiance un peu naïve dans la technologie qui est vraiment très étonnante, mais qui peut se comprendre uniquement par le fait que derrière ça, il y a des intérêts économiques, il y a une série d'entreprises et d'acteurs qui ont l'intention, évidemment, de faire de nombreux bénéfices et qui, pour cela, multiplient les promesses hors sol dans tous les domaines. Et donc, les opposants se retrouvent confrontés à des promesses futuristes totalement hors sol et impossibles, véritablement, à évaluer et se doivent de répondre à ces promesses. Et c'est vraiment une situation terrifiante, je trouve.
Dernière question à François Jarige. L'idée de débattre, d'encadrer ces évolutions, en l'occurrence numériques, ne vous convainc pas, ne vous semble pas une position tenable ?
Si, bien sûr, il faut débattre de ces évolutions techniques, mais tout dépend de ce qu'on appelle un débat, tout dépend des formes que ça prend. Ça fait des décennies qu'on réfléchit à ce que pourrait être une démocratie technique, c'est-à-dire un système de choix, un système de débat autour des choix techniques qui ne s'en remettent pas seulement au marché et aux acteurs dominants dans chaque domaine, mais qui permettent la pluralité des points de vue, la pluralité des avis. Or, ce à quoi on assiste avec la 5G et parmi beaucoup d'autres projets actuels en train d'être développés, c'est que non, c'est les promesses des industriels qui sont en fait directement impliqués dans ce secteur parce qu'ils vont en tirer des bénéfices, qui sont repris par les politiques parce que les politiques y voient quelque chose d'inéluctable. Alors avec les vieux arguments qu'il n'y a pas d'alternative parce qu'il y a la compétition internationale, parce qu'il faut aller dans le sens du problème. Et tout ça, c'est des arguments qui sont vraiment éculés depuis des années. Et ce qui est surprenant, c'est que les autorités publiques reprennent ces arguments de façon aussi brutale, naïve, alors qu'on croyait qu'elles étaient un peu enterrées ou qu'elles avaient du plomb dans l'aile.
Merci François Jarige, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Catherine Pétillon.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel. C'est ce que l'on pourrait appeler la face cachée des opérations de maintien de l'ordre.
Oui, dans un rapport accablant publié ce matin, Amnesty International dénonce l'usage de la loi comme arme de répression des manifestants pacifiques en France. Selon l'ONG, il existerait aujourd'hui dans l'arsenal législatif plusieurs mesures inquiétantes, tant dans leur contenu que dans l'usage abusif qui en est fait pour restreindre le droit à la liberté de manifester. En clair, une forme d'acharnement judiciaire en parallèle des violences policières davantage médiatisées, assez spécifiques à la France et conduisant à des violences qui sont loin d'être seulement symboliques. L'organisation Amnesty International, toujours à le désavouer, en Inde, l'ONG a annoncé aujourd'hui suspendre ses activités sur le sous-continent après le gel sur place de ses comptes bancaires. C'est là le dernier développement en réalité d'une incessante chasse aux sorcières menée par l'administration du Premier ministre nationaliste Narendra Modi à l'encontre de toutes les associations d'origine étrangère et critiques du gouvernement. Les explications à New Delhi de notre correspondant Sébastien Farcy.
Descente de la police pendant 10 heures dans les locaux, clonage des serveurs, interdiction de conférences de presse et finalement harcèlement des donneurs en Inde. Les autorités indiennes ont utilisé toutes les méthodes pour empêcher Amnesty International de travailler. La police l'accuse de recevoir des fonds illégalement de l'étranger et de le blanchir en Inde, mais aucune preuve n'a pour l'instant été apportée dans ce sens. La cour d'appel avait d'ailleurs déjà donné raison à l'association et débloqué ses comptes, gelés une première fois. Ce harcèlement s'est accru ce mois-ci alors qu'Amnesty venait de publier deux rapports gênants pour les autorités. L'un qui remet en cause l'enquête sur les violences religieuses de New Delhi et l'autre sur la situation alarmante des droits de l'homme au Cachemire. Le gouvernement indien, dirigé par les nationalistes hindous, réprime toutes les voix dissidentes sur ces sujets et Amnesty International était l'une des dernières associations à oser encore parler de ces violations au Cachemire. Ce deuxième gel de ses comptes en banque survenu le 10 septembre empêche définitivement l'ONG de continuer.
Au deuxième jour de sa tournée dans les États baltes, Emmanuel Macron a rencontré ce matin à Vilnius l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya. Le président français lui a notamment promis d'aider à la médiation dans cette crise politique d'une ampleur inédite depuis l'annonce cet été de la réélection jugée frauduleuse du président autocrate Loukachenko. De son côté, l'égérie de l'opposition a fait savoir au chef de l'État français qu'elle souhaitait l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dans son pays dès cette année. Les précisions sur place de notre envoyé spécial Louise Baudet.
Encadré par un imposant dispositif de sécurité qui l'empêche presque de parler, Svetlana Tikhanovskaya sort néanmoins ravie de la rencontre.
Ça a été une merveilleuse rencontre. C'est quelqu'un de merveilleux. Il est vraiment impliqué dans la situation en Biélorussie. Il nous a promis de faire tout son possible pour favoriser les négociations dans cette crise politique. Ce moment était très important pour le peuple biélorusse.
L'entretien et sa médiatisation sont en effet importants pour Svetlana Tikhanovskaya qui annonce qu'elle va bientôt s'exprimer devant l'Assemblée nationale française. Devant une trentaine d'étudiants de l'université de Vilnius, Emmanuel Macron réaffirme un peu plus tard l'objectif qu'il s'est fixé, œuvrer pour une transition pacifique et donc pour une médiation impliquant la Russie.
Notre objectif doit être d'obtenir cette médiation. À cette fin, nous allons avoir une politique de pression d'une part par les sanctions et de dialogue avec la Russie d'autre part, parce que ça n'est pas quelque chose et un résultat qu'on peut obtenir sans engager le président Poutine dans cette phase.
La Russie, pièce maîtresse dans cette crise politique, Emmanuel Macron marche sur une ligne de crête et doit donner des gages à l'opposition biélorusse sans froisser le puissant voisin russe. Pour preuve, cette déclaration de Vladimir Poutine qui dénonce ce midi les pressions extérieures sans précédent sur la Biélorussie. Preuve que le dossier est explosif et l'attitude du Kremlin imprévisible.
Se dirige-t-on vers une guerre d'envergure entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Hier, les combats dans le Haut-Karabakh se sont encore intensifiés. Le dernier bilan fait état d'au moins 65 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit lui se réunir en urgence aujourd'hui. Et pour cause, même si chacun s'accorde à dire que la perspective d'un conflit sanglant et durable est peu probable, la réconciliation des deux ennemis n'en paraît pas moins impossible. Sans compter que si le volcan de ce conflit couve depuis près de 30 ans, cette nouvelle éruption de violence sur le versant sud du Caucase est aujourd'hui provoqué par les calculs de puissance extérieure. En l'occurrence, le facteur le plus déterminant semble se trouver en Turquie, le plus proche allié de l'Azerbaïdjan. Une participation militaire qui pourrait bien contraindre la Russie à intervenir si elle souhaite conserver sa position d'arbitre ultime dans la région.
Après des mois d'invectives lors du face-à-face a sonné, Donald Trump et Joe Biden se retrouvent et se retrouveront plutôt ensemble sur scène ce soir à 35 jours maintenant d'un scrutin sous très haute tension. Thomas.
Et même si les débats décident rarement de l'issue d'une élection présidentielle aux États-Unis, la question se pose invariablement avant chaque nouveau scrutin. Celui de ce soir fera-t-il exception à la règle? Quoi qu'il en soit, le président sortant et son adversaire démocrate vont donc croiser le fer pour la première fois de cette campagne. Alors Joe Biden, bénéficiaire involontaire de la pandémie et de la profonde crise économique, dispose toujours d'une nette avance dans les sondages, sauf que sa propension à faire des gaffes pendant les joutes oratoires est aujourd'hui de notoriété publique. Dès lors, qu'en sera-t-il ce soir? En l'occurrence, Joe le gaffeur, comme le surnomme ses détracteurs, a aussi déjà prouvé par le passé qu'il pouvait se montrer redoutable lors d'un débat. Correspondance à New York, signé Benjamin Illy.
Donald Trump aime l'appeler Joe l'endormi, mais c'est son côté gaffeur qui est unanimement reconnu par la presse américaine. Les compilations de ses dérapages fleurissent sur Internet. Un exemple connu, 2008, en pleine campagne pour Barack Obama, il lance en meeting Chuck, lève-toi. Il voulait rendre hommage à Chuck Graham, ancien sénateur à l'Assemblée du Missouri, paraplégique. L'entourage de Joe Biden assure en tout cas que le candidat démocrate sera percutant, offensif contre Donald Trump. Il a prouvé dans le passé qu'il pouvait avoir du répondant face à ses opposants, face à Paul Ryan en 2012. À l'époque, il déstabilise sans mal le colissier du républicain Mitt Romney, il le tourne en dérision. Ah, maintenant, vous êtes Kennedy, rétorque Joe Biden, quand Paul Ryan évoque les baisses d'impôts en prenant exemple sur JFK. La petite phrase est devenue célèbre. De toute façon, pour le débat à venir, Jill Biden, l'épouse du candidat démocrate, a donné le ton. Il y a deux jours, sur CNN, le journaliste lui parle des gaffes de son mari. N'allez pas plus loin, après Donald Trump, vous ne pouvez pas dire le mot gaffe. Non, stop, c'est fini. Complètement fini. Plus de gaffe, donc, à Joe Biden maintenant de ne pas faire mentir sa femme.
Ciel incandescent, maison ravagée par les flammes, arbres et vignes calcinés en Californie en proie à une nouvelle vague de chaleur. Le brasier nommé Glass Fire, attisé par des vents violents, a brûlé près de 4500 hectares dans le comté de Napa, l'une des zones de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis. Hier soir, quelques 34 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Depuis le début de la saison, plus de 8 000 feux se sont déclarés en Californie, parcourant 1,5 million d'hectares au total. Pressé par le temps et malgré une confiance ébranlée par le revirement britannique sur le traité du Brexit, Londres et Bruxelles vont tenter de renouer le dialogue cette semaine avec l'espoir qu'un accord sur leurs futures relations commerciales reste possible. Un nouveau cycle de discussions, le 9e depuis le mois de mars et surtout le dernier pour l'instant inscrit à l'agenda. Les blocages concernent essentiellement la pêche, les aides d'État aux entreprises et la frontière irlandaise. Autant dire qu'un accord est loin d'être garanti, même si derrière le théâtre politique, les négociations donc se poursuivent en coulisses. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, couvert et légèrement pluvieux sur le nord-ouest. Partout ailleurs, plus lumineux au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.